Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
Tais-toi ! Qu'est-ce que tu cherches ?
Il sera mort avant le crépuscule.
Ah oui ?
Au programme aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés, avec deux films de Billy Wilder sortis chez Rimini, un drame, Le Poison, un film de 45, et une comédie, 1, 2, 3, un film de 1961. Quelques œuvres singulières éditées par Carlotta, tel Film de 65 et Notre Film de 2015, un court-métrage et un documentaire qui voient se croiser Samuel Beckett et Buster Keaton, et puis Schlock, le premier long-métrage de John Landis de 1973. Toujours chez Carlotta, le culte vampire, vous avez dit vampire, de Tom Holland, un film de 85. Le transgressif Les funérailles des roses de Toshio Matsumoto de 1969. Nous filerons ensuite chez Rimini avec des films fantastiques et de l'aventure. Avec par exemple L'enfer des tropiques du mésestimé Robert Parrish, un film de 57. Le continent oublié de 77 de Kevin Connor d'après Edgar Rice Burroughs, et Mutation 1973, œuvre ultime de Jacques Cardiff. Il y aura aussi un peu d'aventure chez Artus Film avec le Guillaume Tell, la version mythique, signée en 1960 par Michel Dickoff et Karl Hartle. Encore de l'aventure, mais aussi du western chez Elephant Film avec Côté héros sans peur et sans reproche venu d'Orient, Bagdad de 1949, Les frères Barberousse de 1951, deux films de Charles Lamont. Le fils d'Ali Baba, un film de 52, signé de Kurt la mouche noire Neumann. Et Les exploits d'Ali Baba de 65, un film de Virgil W. Vogel. Et côté cowboy, le retour des Texas Rangers, un film de 1940 signé James Patrick Hogan. La belle rousse du Wyoming, un film de 1953 signé Lee Sholem. Le Mustang noir est de 49 et Sur le territoire des Comanches de 50 de George Sherman, deux films de Sherman. Et Il était une fois deux salopards, film de 67 de Samuel Fuller et Charles Dubin. Et enfin Vengeance mexicaine, un western tardif de Fred Chepizzi, un film de 1982. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mon acolyte anonyme, mais qui ne l'est pas tant que ça. Je veux bien sûr parler de mon ami Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue CRIF et le site culturopoint.com, et sévit aussi sur Radio Campus Amiens pour une émission qui s'intitule « À l'écoute du cinéma ». Salut Thomas.
Salut Gégé et salut à toutes.
Oh, le souffle terrible de Thomas là, qui sent la, l'usure d'une journée de studio particulièrement harassante. À moins que Thomas soit victime du poison, ce poison terrible dont Billy Wilder nous parle en 1945, dans un film qui est un drame. D'habitude, je vous parle des comédies de Billy Wilder ou de ses films noirs. Et là, ben, on est face à un drame.
Startling novel of the decade, brought to the screen with uncompromising frankness, pulling no punches, knowing full well the storm it would cause. For this is a relentless, terrifying tale of five lost days and nights,
torn from a man's life, baring his heart and soul. The Lost Weekend, starring Ray Milland in one of the great performances of motion picture history. And Jane Wyman as the girl who shared his desperate journey into fear.
Alors c'est un film qui est une histoire toute simple. Hein. Burnham doit partir en week-end avec son frère Nick et auparavant assister à un spectacle à l'opéra avec sa fiancée Hélène, qu'il a rencontrée 3 ans auparavant. Mais malheureusement, son attirance pour l'alcool, le fait qu'il est alcoolique, va tout remettre en cause. Heureusement, c'est de l'amour de cette fameuse Hélène qui va l'empêcher de sombrer totalement. L'alcoolique en question, c'est Ray Milland, quand même, le fameux homme au rayon X de Roger Corman, quand même, ça rigole pas. Et le film, eh bien, s'appelle Le Poison, puisque le poison, bah, évidemment, c'est l'alcool. C'est sans doute le film, je pense, le plus récompensé de Billy Wilder. C'est vraiment pas mon préféré, peut-être, parce que... Bon, il évite quand même le côté mélodrame, mais bon, c'est quand même un peu, par moment, un peu larmoyant, quand même. Hein, voilà.
Il charge quand même la mule. Hein.
Voilà, c'est ça, il charge la mule. Voilà, bon... Thomas, je te sens inspiré.
Bon, moi, c'est un film que j'ai pas super apprécié. Hein. J'ai trouvé que j'avais déjà vu ça plusieurs fois. Enfin, en même temps, bon, peut-être que j'ai vu des films postérieurs à celui-ci qui ressemblaient à celui-ci. Soyons plus exacts. Ce qui fait que j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu le film. Mais c'est pas quelque chose qui me parle, quoi. L'addiction à l'alcool, etc. Et puis cette descente aux enfers. Du personnage qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement.
Je suis assez d'accord avec toi, puis en plus il y a des trucs qui ont mal vieilli. Il y a par exemple une scène de où parce qu'il a souvent des hallucinations, Ray Milland, dans le film, et il y a une scène où il voit une chauve-souris se battre contre une souris, et la scène, si elle pouvait impressionner à l'époque, elle tombe un peu à plat aujourd'hui, parce que elle fait assez cheap, quoi. C'est pas, les effets spéciaux sont pas très performants. Et puis, je n'aime pas beaucoup la voix off, en fait, qui intervient à la fin du métrage, comme ça, l'aspect... je trouve que ça s'impose pas. C'est pas le Wilder que je préfère, même si il y a des choses dans la mise en scène qui sont intéressantes. Je pense au motif circulaire qui revient, des choses comme ça. C'est effectivement, je partage ton avis, ce ne sera pas mon Billy Wilder préféré. Moi, je préfère voir, par exemple, 1-2-3, qui est sorti également chez Rimini. 1-2-3, c'est un film que je trouve vraiment hors norme, que je trouve vraiment super bien réussi, quoi.
The man at the top of the ladder is Billy Wilder. He specializes in screen comedy. Remember how he made you howl at Some Like It Hot? Remember how he delighted you in The Apartment? Well, now Billy Wilder's done it again in his hilarious new comedy, 1-2-3.
All right, here we go. First, get a barber and a manicurist up to the office. Next, call my lawyer. I want him here immediately. Next, I want to speak to the manager of the Berlin Hilton.
Yes, sir.
And send Ingeborg in here with pad and pencil.
Yes, sir.
Helma.
1-2-3.
L'histoire, c'est celle de James Cagney, McNamara. Il est responsable de la succursale berlinoise de Coca-Cola. Il veut pénétrer le marché soviétique, évidemment. Et puis, son patron, au siège à Atlanta, lui informe que sa fille, la fille du patron, donc hein, Scarlett, va arriver à Berlin. Et donc, il doit la chaperonner. Mais la jeune femme, qui est une tornade, hein, voilà, eh ben elle tombe amoureuse d'un jeune chauffeur de taxi communiste, évidemment, qui lui est une caricature de communiste. C'est vraiment un film, c'est assez dingue, c'est un film presque, comment dire, il y a tellement de rythme que c'est presque insupportable. Il y a un gag quasiment par plan, et il y a un paquet de plans. C'est d'une inventivité incroyable. L'introduction du film est excellente pour présenter la scission Berlin-Est, Berlin-Ouest. On voit, comment dire, il y a un texte qui s'affiche par chance. Berlin bénéficie des bienfaits, Berlin-Est bénéficie des bienfaits de la démocratie. On voit ça à l'écran, enfin on entend ça, et à l'écran on voit une pub pour Coca-Cola. Les bienfaits de la démocratie, c'est donc la pub pour Coca-Cola. Ça démarre comme ça, c'est ça le début du film. On est vraiment chez Billy Wilder, voilà. En fait, c'est une rencontre entre l'URSS et le Coca-Cola, quoi. Voilà. C'est assez drôle. D'ailleurs, il y a plein de gags assez extraordinaires dans le film. Il y a la révélation aussi de Scarlett Hazeltine, qui fait cette jeune fille là, qui est une vraie tornade. Hein. Dans l'avion, elle séduit les trois pilotes. Hop, à peine arrivée sur le sol, déjà James Cagney sait que ça va être compliqué quand elle arrive. Voilà. Elle est vraiment hilarante. Et puis bon, bah évidemment, elle séduit tous les hommes qu'elle rencontre. Il y a toujours ce côté trivial hein, chez Billy Wilder, mais trivial mais sympathique parce qu'en fin de compte, les mecs décident pas quoi. C'est toujours les femmes qui décident. Ensuite. Il y a une scène aussi très rigolote dans un bar au moment où il y a la fête et puis la secrétaire fait son striptease avec un portrait de Khrouchtchev. Et puis le portrait de Khrouchtchev avec les vibrations, il commence à bouger, à se détacher. Et on voit juste derrière, ils n'ont pas encore enlevé le portrait de Staline. Enfin, il y a plein de moments comme ça, très très drôles. Et c'est donc un film dont on peut dire que un film très ironique, dont on peut dire que même s'il n'est pas aussi réussi que La Garçonnière, qui avait un côté très beaucoup plus fin dans l'écriture, s'il ne va pas être aussi provoquant que certains Lame Show, ni aussi grave par exemple qu'Embrasse-moi idiot, c'est quand même une comédie féroce, une comédie ultra rythmée, avec tout le temps des jeux de mots. Par exemple, à un moment, je sais plus, il y a des échanges. I said Karl Marx, not Groucho, ou bien il y a des petites phrases comme ça qui font des références. Scarlett has gone with the wind, par exemple, quand Scarlett s'en va. Il y a des gags complètement fous. Hein, on est dans le comique, j'ai envie de dire marxien, mais voilà, hein, la Groucho Marx. Il y a par exemple un moment de la choucroute plaquée or qui est vendue en tant que guirlande. Voilà, on est carrément dans des gags surréalistes, voilà. Et puis il y a ce côté aussi, évidemment, c'est un peu facile. Le communiste devient une sorte d'avocat du capitalisme et le grand patron devient bientôt un type qui va plaider le collectif, quoi. Voilà. Je m'arrête là et j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film quand même assez dingue. Culture Prohibée. Autre film un peu dingue, c'est le film qui a vu se croiser Samuel Beckett et Buster Keaton, mon cher Thomas.
Effectivement, un court-métrage réalisé par Samuel Beckett. Hein, Samuel Beckett, écrivain irlandais, si je ne me trompe pas, et dramaturge. Qui a écrit la célèbre pièce En attendant Godot et qui là réalise un court-métrage avec Buster Keaton vieillissant qui s'est un peu empâté quand même hein, et un court-métrage assez étrange hein, quelque chose de très d'assez un peu surréaliste. Avec, je crois qu'il n'y a que Buster Keaton qu'on voit dans le film. Hein. On ne voit pas son visage pendant une bonne partie du film, en fait. C'est un film assez étrange. On le voit souvent de dos, tout le temps de dos, même quasiment. Et c'est quelqu'un qui rentre chez lui et puis il lui arrive des trucs bizarres chez lui. C'est vraiment un court-métrage atypique. Bon, ça ressemble vraiment à du Beckett, en fait. Hein. C'est décalé, c'est surréaliste, c'est limite onirique. Et Buster Keaton joue vraiment un personnage, on peut dire, à contre-emploi, tout en jouant avec ce qui a fait sa notoriété, sa singularité. Mais là, il est vraiment utilisé dans un contre-emploi total, un court-métrage plutôt dramatique, fantastique. C'est pas quelque chose de drôle et c'est pas, enfin bref, c'est pas un registre dans lequel on a l'habitude de voir Buster Keaton.
Ouais, pour compléter un peu, je dirais que l'esthétique particulière de ce court-métrage, elle est due aussi à Boris Kaufman, qui est le chef opérateur de Diga Vertov. Le fameux réalisateur de L'homme à la caméra, voilà, c'est lui le chef opérateur. Donc cet aspect esthétique, il est là aussi de par la présence de ce chef opérateur, parce qu'on sait très bien qu'un chef opérateur a un rôle prépondérant dans l'aspect plastique d'un film. Hein. Y a plein de choses qu'on apprend dans notre film, parce que film, Carlotta l'a accompagné de notre film, qui est un documentaire de 2015 de Ross Lippmann. Sur le tournage de film, qui s'appelle film, hein, sur le tournage donc de film, tout ce qu'il y a autour du film, c'est assez rigolo. On apprend par exemple que la production avait contacté Chaplin d'abord, qu'il a refusé, et que Keaton a accepté parce qu'il a même pas lu le scénario, en fait, c'est même pas ce qu'il devait faire. Il avait pas un rond, quoi, donc il avait besoin de pognon, donc il a accepté ça sans trop savoir là où il se dirigeait. En fait, ce que dit Beckett, c'est « J'ignore s'il a lu le texte, je doute qu'il l'ait approuvé ou aimé, mais il a accepté de le jouer. » Voilà, donc pour Beckett, voilà, c'est l'essentiel, il a accepté de le jouer, donc maintenant on va jusqu'au bout. Le documentaire est très intéressant, en fait, moi je pense que c'est un très bon choix éditorial. Hein. On peut pas voir, il faut voir les deux. Il faut voir d'abord film, parce que du coup on s'interroge, on se demande ce que c'est que cet objet filmique non identifié. Et ensuite, parce que Buster Keaton, il est excellent par contre, hein, il a un certain âge et tout, mais il a une présence, il joue très bien avec son corps, tout ça, c'est sa spécialité. Hein.
Jouer avec son dos, c'est pas évident, quoi.
C'est clair, il joue très bien avec son corps, clairement, quoi. C'est signe qu'effectivement, il y a du talent, quoi. Et puis l'aspect plastique du film, voilà, j'en ai parlé, hein, qui donne cet aspect tout particulier au film, qui est un drôle de film.
From the dawn of man comes Schlock.
Autre drôle de film édité par Carlotta, c'est Schlock, le premier film de John Landis. Hein. Un film un peu dingue, film vraiment bien dingue d'ailleurs, dans lequel une sorte de... Un Schlock, le chaînon manquant, une sorte de gorille comme ça, un peu étrange. Je crois que c'est le premier travail de Rick Baker, je crois, professionnel, c'est lui-même qui est dans le costume, attaque une petite ville américaine et on a évidemment plein de gags, on est chez John Landis, dans ce film quand même très singulier, qui aujourd'hui peut paraître peut-être au niveau du rythme un peu longué, un peu mollasson. Moi, à sa première vision, j'avais la petite VHS sortie chez VIP, là, ça me paraissait super bien. Bon, là, quand je l'ai revu, effectivement, ça a pris un petit coup de vieux. Mais bon, c'est John Landis, quoi.
En fait, je crois que c'est John Landis qui se cache sous le costume du singe, du Schlock.
Tu as raison. D'ailleurs, John Landis, je viens de vérifier, John Landis qui a même investi ses propres 60 000 dollars pour faire le film. C'est vraiment du film fait maison.
Ah oui, c'est du film fait maison, fauché. Et je trouve que ça se voit quand même à l'image, hein, que c'est fauché. Il y a effectivement de gros problèmes de rythme. Le film est un peu longué, est un peu mollasson. Hein. Mais bon, on va dire que c'est une relecture très particulière de King Kong par John Landis avec des gags. Bon, moi je trouve pas le film super drôle, hein. Je trouve que le film a vieilli, en fait, hein. Je trouve que le film a vieilli, qui fonctionne pas trop, en fait.
Ah, c'est aussi une relecture de 2001, l'Odyssée de l'espace,
entre autres. Oui, voilà, je sens qu'il relie beaucoup de choses, hein.
Je peux pas résister quand même à la phrase qui ouvre le film: après Naissance d'une nation, puis Autant en emporte le vent, 2001, l'Odyssée de l'espace, Love Story, maintenant Schlock.
First, birth of a nation. Then, gone with the wind. 2001, a space odyssey. Love story. See you next Wednesday. And now, Schlock. There is no place to hide. No one is safe from Schlock. 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 Schlock.
Le film, quand même, fait preuve de mauvais goût. Il y a des gags visuels plutôt bien amenés. Évidemment, c'est fauché, donc ça sent aussi un peu... Bon, tous ces films qui... C'est comme le Dark Star de Carpenter, qui est très bien, mais qui a aussi des côtés fauchés. Bon, c'est plus des films de jeunes, des premières œuvres faites façon punk, quoi, que... Ou do it yourself, quoi, que vraiment des films où on a déjà les moyens de faire quelque chose à la hauteur de ses ambitions. Et c'est en tout cas le premier film de John Landis, c'est à voir, parce que si on est fan de John Landis, parce que John Landis, ça reste quand même un de nos petits chouchous. Nous, on l'adore, John Landis. Toujours chez Carlotta, un autre film culte, parce que Schlock, c'est quand même culte. Hein. On ne va pas se mentir, hein. c'est un film qui jouit quand même d'un certain culte. Je vais bien sûr vous parler de Vampire. Vous avez dit Vampire de Tom Holland. Alors Vampire, vous avez dit Vampire, c'est un film de 1985. C'est l'histoire de Charlie Brewster, et non pas de Punky Brewster, qui est un adolescent sans histoire et qui partage sa vie entre sa mère, sa petite amie, ses copains... Et ses séries préférées à la télévision, et surtout une émission avec un savoureux personnage joué par Roddy McDowall, qui d'ailleurs recevra le prix d'interprétation dans plusieurs festivals pour sa participation au Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un type qui présente des séries B, bis, grimées un peu en vampire à la télé américaine. Il y a plein d'émissions comme ça à la télé américaine, de toute façon. Donc,
En Van Helsing.
Ouais, c'est une sorte de Van Helsing, et surtout. Bah du coup, aux yeux de ce jeune homme, il apparaît comme un vrai chasseur de vampires. Quoi. Lui, il croit que c'est vraiment un chasseur de vampires, alors que c'est plutôt en fait un papy qui a du mal encore à exister à la télé et qui a deux doigts d'ailleurs plutôt de prendre la porte que de continuer son émission. Mais arrive un nouveau voisin un peu étrange, un peu séduisant, qui s'avère être un monsieur aux dents longues, hein, puisque en fin de compte c'est un vampire. Alors au début l'ado, alors, schéma classique, l'ado suppose que c'est un vampire. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'en est pas un? Voilà. Il va vite découvrir que c'en est vraiment un. Il va aller chercher l'aide de Roddy McDowall pour justement combattre ce vampire, ce fameux vampire. Mais là, alors le film a une esthétique très années 80, des effets spéciaux très organiques, moi, comme j'aime bien, quoi, voilà, même si certains sont un peu foireux et tout, c'est pas grave. C'est un peu le film que personne n'attendait, parce que le film va faire un tel carton qu'il y aura une suite signée Tommy Lee Wallace. Le film va être remaké. Il paraît que le remake a eu aussi une suite. Hein, je crois que le remake, c'est avec Colin Farrell, si je veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Voilà, c'est assez récent. De toute façon, aujourd'hui, on remake tout. Hein. Quand on n'a plus d'idées, on remake. Hein. C'est ce qu'on fait, voilà. Et donc, le film est quand même assez sympa. Et il y a surtout un truc, moi, qui m'avait... Là, quand je l'ai revu, qui m'a frappé. C'est ça qui est bien avec les bonnes séries B, parce que c'est une très bonne série B. Hein. Moi, à la revoyure, là, j'ai été agréablement surpris. Parce que des fois, quand on voit des trucs qui nous ont plu à dos, quand on les revoit... Moi, je l'ai vu à sa sortie, en plus, je l'ai vu en salle, moi, ce film-là. Donc, c'est vraiment, j'avais 11 ans, c'était interdit au moins de 13 ans, c'était le grand frisson. Je suis allé avec un voisin qui avait l'âge de rentrer dans la salle. Et c'était, à l'époque, c'était interdit au moins de 13 et 18. Maintenant, c'est moins de 12 et 16, mais à l'époque, c'était 13 et 18. Et en fait, moi, j'avais adoré. Et là, quand je l'ai revu, j'ai été frappé par quelque chose, c'est que le film... Alors qui est quand même pas réalisé par n'importe qui, puisque c'est Tom Holland, c'est pas un génial réalisateur, c'est pas Kubrick, évidemment, mais c'est le mec derrière Chucky, la poupée de sang. C'est un vrai fan de fantastique, qui a mis toute sa carrière au service du fantastique. Hein. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans ce film-là, il y a quand même quelque chose qui est très étonnant, c'est la tension sexuelle qu'il y a dans le film.
Oui, et il traverse les tourbières, c'est ça ?
Amy, je suis sérieux.
Moi aussi. Est-ce que tu veux faire l'amour ou pas? Je ne te comprends pas. D'abord, tu veux faire l'amour et ensuite, tu refuses.
Amy? Charlie? Ça ne va pas?
Si, mais...
C'est un film très étrange parce qu'en fin de compte, c'est pas le vampire, métaphore... d'affronter sa propre sexualité parce qu'on ne sait pas trop si ce garçon... il est peut-être un peu attiré par le vampire, est-ce qu'il l'est pas? Enfin, on ne sait pas trop tout ça. Mais ce qui est surtout très dérangeant, c'est qu'en fin de compte, là, il se soucie de la sexualité de sa mère. C'est quand même un truc assez particulier. Parce que ce qu'il veut pas, c'est que sa mère, elle couche avec le vampire. Voilà. Et ça, c'est un truc quand même assez, assez étrange, assez particulier. Et ça donne un petit plus au film.
Alors, selon Pascal Fransex, c'est un film homosexuel.
Moi, je suis pas en désaccord avec ce que dit Pascal Fransex, qui dit souvent des choses pertinentes. Et effectivement, il y a l'idée, et c'est peut-être encore peut-être plus prégnant dans le remake récent qui a été fait, il y a l'idée de cette sorte de triangle amoureux, où en fait, on jarterait un peu la petite amie du jeune homme, et où en fait, il y aurait le vampire, la mère et le fils. Et la mère et le fils, quelque part, qui aimeraient tous les deux le vampire. C'est effectivement, parce qu'il est magnétique, forcément, c'est un vampire. Donc il est attirant. Et puis bon, bah, il t'hypnotise, donc après, il attire tout le monde, hein, voilà. Et c'est pas faux. Et c'est pour moi ce qui donne, c'est ce que je dis, c'est cette tension sexuelle qu'il y a dans le film, qui donne un petit plus à cette série B, ma foi, fort agréable. Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale sortie Blu-ray et DVD. Je vais rester chez Carlotta pour vous parler d'un film qui s'appelle Les Funérailles des Roses, un film de 69 de Toshio Matsumoto, un film transgressif, hein, puisqu'il s'intéresse à l'histoire d'Eddie, alors qu'il s'appelle Eddie par rapport à Eddie Sedgwick, qui n'est pas facile à prononcer, Sedgwick, l'égérie d'Andy Warhol. Hein. Et en fait, Eddie, c'est un jeune travesti qui erre dans les bars gays de Tokyo dans les années 60. Et là, c'est un film rare, puisque c'est un témoignage, c'est un mélange de documentaire, de fiction, et c'est un témoignage sur les... voilà, la condition des gays dans les années 60 au Japon, à Tokyo, et des personnages qui veulent changer de sexe, on les voit aussi subir du harcèlement de rue, tout ça. Et c'est un film assez particulier parce qu'il mélange documentaire et fiction, mais dans la partie fiction, ça rompt complètement avec le naturalisme, parce que dans la partie fiction, il y a un côté presque onirique par moment. Le film, en fait, part jamais là où vous l'attendez. Ça peut être un peu pompeux par moment ou fatigant parce que maniériste, voilà. Mais c'est une proposition de cinéma très intéressante. L'aspect oedipien du film est un peu passé au-dessus. Je trouve que ça, c'est un peu loupé dans le film. Mais le film reste assez fascinant. C'est une œuvre très à part et je comprends effectivement le culte qu'il peut dégager. Et c'est un document unique parce qu'il y a très peu de films, alors au Japon, voire même ailleurs d'ailleurs, sur le milieu gay, sur les conditions de vie des gays et dans cette époque, les années 60, où quand même la norme hétérosexuée régnait en maître. Elle règne encore aujourd'hui, mais là, elle régnait encore plus. Je vais quitter Carlotta et puis je vais aller chez Rimini. Rimini qui a, depuis maintenant quelques années, une politique très intéressante de sortir des films de patrimoine, mais des films de patrimoine qu'on aurait peut-être un peu oubliés. Et là, on va vous parler de trois films récemment sortis. Je vais démarrer avec un film d'aventure. Je terminerai par un film d'horreur, mais je laisserai mon ami Thomas en parler parce que un film d'horreur horrible dans tous les sens du terme. Voilà. Là, je vais vous parler d'un film de Robert Parrish. Un film de Robert Parrish s'appelle L'Enfer des Tropiques, Fire Down Below. Et alors, écoutez bien le casting. Rita Hayworth, Robert Mitchum, Jack Lemmon, dans un second rôle Herbert Lom, il y a du casting. Voilà. Donc, c'est simple. Félix et Tony sont aux Caraïbes, c'est deux aventuriers, ils vivent de petits trafics. Et puis, moyennant une belle somme d'argent, puisque c'est un peu ils sont un peu mercenaires sur les bords, les loustiques, ils sont un peu voyous, mais des gentils voyous. Et ils acceptent d'emmener clandestinement, c'est des passeurs en fait, hein, aussi, faut le dire, Irena,
ex-danseuse au passé mystérieux jusqu'à l'île de Santanada. Alors évidemment, Tony tombe amoureux d'elle, sauf que elle tombe amoureuse de l'autre, voilà, Félix Bauer. Et bon, soyons clairs, dit comme ça, le scénario n'a rien de transcendant. Voilà. Sauf que, bah déjà Robert Parrish, c'est pas n'importe qui. C'est un réalisateur qui a pris son métier avec John Ford. C'est un réalisateur qui a débuté enfant, je vous conseille d'ailleurs son autobiographie, qui a débuté enfant à Hollywood, elle est passionnante. Il s'appelle « J'ai grandi à Hollywood » d'ailleurs, je crois, préfacé par Tavernier. Je ne me rappelle plus de l'éditeur parce que c'est un livre que j'ai depuis fort longtemps. Mais c'est vraiment passionnant parce que vous avez tout l'envers du décor d'Hollywood. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le film a été totalement remonté par les producteurs. Parce qu'en fait, il y a les deux hommes qui se déchirent au sujet de cette femme mystérieuse, dont on apprend peu à peu qui elle est. Et puis, lors de les dernières 20 minutes du film, il y a l'un des deux hommes, je ne vous dis pas lequel, qui se retrouve coincé voilà, dans un bateau. Il faut réussir à le sortir sous des poutres, sous des poutrelles, tout ça. Parce que sinon, ça va exploser, il va mourir. Voilà. Et le montage originel partait du final. Et en fait, par des flashbacks successifs, on découvrait la situation qui avait amené. Et du coup, ça décuplait la tension, ça décuplait l'histoire. Malheureusement, les producteurs en ont décidé autrement. Ils ont pensé que le public ne comprendrait pas le film. Eh oui, oui, les producteurs sont toujours plus intelligents. Et donc, du coup, le film perd un peu de sa saveur parce qu'effectivement, la construction en flashback devenait plus intéressante que cette construction dans l'ordre logique. Mais néanmoins, moi, je retiens de ce film une scène incroyable. Évidemment, une scène de danse avec Rita Hayworth. L'une des rousses les plus flamboyantes de l'histoire du cinéma, puis d'une sensualité débordante. Et Rita Hayworth, bah, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait une danse incroyable dans laquelle elle charme l'un de ces deux hommes. Et en fait, il y a une sorte de jeu du chat et de la souris qui s'installe entre tous les protagonistes. Et cette danse lascive, dont on ne sait plus si elle est destinée à Lemon, à Mitchum, se termine en une danse lascive un peu adressée à l'ensemble de tous les hommes qui sont là, dans ce lieu de perdition, au sein d'une fête où tout le monde danse dans la rue, là. Et ça donne une sorte de, je ne sais pas, une sorte de scène de danse sensuelle qui vire à la partouze. Mais pour ça, il fallait au moins la sensualité de Rita Hayworth pour amener une scène pareille. Et cette scène-là, évidemment, vous vous doutez bien que, en bon érotomane que je suis, c'est la scène que je vais retenir de ce film. Autre film beaucoup plus bis de Kevin Connor, Le Continent Oublié, adapté d'Edgar Rice Burroughs avec Patrick Wayne, le fils de qui vous savez, le fils du Duke, Sarah Douglas, Forley Walters, Dana Gillespie avec l'un des décolletés les plus affolants de l'histoire du cinéma dans ce film. Elle explique d'ailleurs qu'elle avait dans les bonus qu'elle avait une telle peur que ses seins s'échappent à l'écran parce qu'il lui avait mis un bustier tellement petit que en fait elle les avait scotchés pour éviter que justement elle ait une mésaventure, ce qui était très désagréable. Et c'est assez drôle. Il faut regarder les bonus. Les bonus sont assez sympas. Alors qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est adapté dans d'Edgar Rice Burroughs et en fait ça s'inscrit dans un cycle et c'est la suite du sixième continent. Et donc comme le sixième continent avait bien marché, il y avait en gros, hein, c'est l'histoire est simple. Hein, on va sur une île et puis sur cette île il y a des bêtes préhistoriques, tout ça et tout. On doit se battre. Là, on est en 1917. Le major Ben McBride réunit un petit groupe d'aventuriers pour partir à la recherche de l'un de ses collègues disparus dans une région inexplorée du globe, contraint de se poser en catastrophe après l'attaque de leur avion par un ptérodactyle. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Les membres de l'expédition découvrent un monde étrange peuplé d'hommes préhistoriques et de dinosaures. Et c'est parti pour de l'aventure pendant une heure et demie et une dernière demi-heure où on a l'impression clairement que l'équipe s'est fait plaisir et a tout fait péter. Voilà, tout explose. C'est pas le film du siècle, hein, mais c'est tellement agréable. Moi, c'est les films de mon enfance. Donc je leur excuse tout parce que il y a un sens du rythme. C'est très coloré, c'est très beau, c'est très dynamique et c'est vraiment très agréable à regarder. C'est du spectacle familial, voilà, comme on n'en fait plus aujourd'hui. D'ailleurs, des films aussi qu'on ne fait plus aujourd'hui, toujours édités par nos amis de Rimini, c'est des films de Jacques Cardiff déjà, parce que Jacques Cardiff ne fait plus de films. L'un des plus grands directeurs de la photo de l'histoire du cinéma, on rappelle quand même que Les Chaussons Rouges de Powell, c'est lui, que African Queen de Houston, c'est lui, que Le Narcisse Noir de Powell, c'est toujours lui, qu'il est aussi un réalisateur très intéressant, je pense à Amant et Fils, je pense aussi au Dernier Train du Katanga, qui est un film monstrueux, voilà, qui mériterait une édition du tonnerre d'ailleurs, hein, ce film extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 74? Il va rencontrer son âme damnée, hein, Robert D. Weinbach, qui lui propose un film assez foireux, il faut bien le dire, qu'il va réaliser, qui va être son dernier film, film qu'il a longtemps, longtemps renié. Vraiment, lui-même, il a longtemps renié ce film. Et ce film, c'est quand même quelque chose. C'est Mutation, et la version qui nous est présentée là dure quand même pratiquement un quart d'heure de plus que la version dont on disposait auparavant. Donc quand même, je crois qu'il y a 13 minutes en plus. C'est un film où le professeur Nolter, Donald Pleasance, qui a l'air d'ailleurs complètement apathique pendant tout le film, mène des expériences pour prouver qu'en manipulant les structures de l'ADN, il est possible d'obtenir des créatures mêlant des caractéristiques animales et végétales. Et pour cela, il utilise les services pour le fournir en jolies victimes dénudées, dont Julie Hage, quand même une des plus belles poitrines, de l'histoire des films de la Hammer. Ce Lynch, qui donc travaille dans un cirque de freaks, dirige un cirque de freaks, des vrais freaks. Ça, c'est le côté du film vraiment très étrange. Lui fournit donc ses victimes. Et ça donne donc Mutation, qui est sincèrement, hormis la photo qui est vraiment très belle, mais bon, en même temps, c'est Cardiff, quoi. Mais qui est sincèrement, sinon, une série Z avec une belle photo, on va dire les choses. Pour son être dans la série Z, quand même, les maquillages sont déplorables, les monstres sont hilarants, absolument pas effrayants du tout. En gros, c'est quand même un objet filmique non identifié, ce truc. Enter a world of the twisted and deformed. A world of monsters and madmen. Get back! Get back! Get away from me! The Mutations. Rated R. Je dis, c'est quand même pas mal de pouvoir revoir des films de série Z comme ça, édités en DVD Blu-ray. Au moins, il n'y a pas que de la place que pour des gros films, des blockbusters qui bouffent tout et qui uniformisent tout, le regard comme les productions. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est une belle édition. C'est-à-dire qu'il y a un livret fort sympathique, que j'ai là entre les mains, qui doit être écrit, je crois, par Marc Toulek, l'habitué, Marc Toulek. Et surtout, C'est aussi, faut savoir que Vincent Price devait tenir le rôle et puis Pleasance l'a remplacé au pied levé. Mais c'est surtout effectivement une époque où on produisait des films comme ça, on ne les produirait plus aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est un peu l'équivalent d'un type qui irait chercher aujourd'hui l'un des plus grands directeurs de la photo en activité et puis il lui dirait. Bon, tu veux pas me faire un film avec des frics, des filles à poil, des monstres en caoutchouc et puis un savant fou?
Ça m'a l'air sympathique tout ça.
Voilà, c'est. Et donc, voilà, donc on est là-dedans et la copie est superbe. Et par contre, le film a un aspect, du coup, avec les minutes en plus qu'on n'avait pas là, tout le début du film en fait qu'on n'avait pas. Le film a aussi clairement un aspect psychédélique.
Ouais.
Voilà. Avec des images un peu venues d'ailleurs, voilà, des images de plantes qui poussent comme ça, mises en accéléré, des trucs assez expérimentaux. Et le film est vraiment singulier, même si je trouve que c'est nul, mais on ne peut pas s'empêcher, on ne décroche pas de l'écran, parce que, d'ailleurs, c'est devenu culte, aussi pour sa galerie de frics, parce que sa galerie de frics, elle a un côté un peu flippant aussi, hein, quand même, il faut dire les choses. Et voilà, c'est un drôle de film. Et qu'on vous conseille vivement, en tout cas, c'est un film totalement culture prohibée pour le coup. Vous écoutez Culture Prohibée. On est un peu pris par le temps, mais j'ai encore plein de films dont je vais vous parler, donc je vais essayer d'aller très vite. Je voulais vous causer de la... d'un superbe coffret Blu-ray, DVD avec un livre sorti par nos amis d'Artus Film sur le Guillaume Tell. Hein, Guillaume Tell qui est quand même un mythe illustré au cinéma dès 1896, soit un an après son invention par Émile Reynaud. Et là, c'est en Suisse, forcément, puisque c'est quand même... en Suisse, c'est un mythe très populaire. C'est en Suisse qu'en 1960, Michel Dickhoff et Karl Hartle signent cette version, qui est un vrai petit classique du genre, hein, que nous propose Artus Film dans un superbe Mediabook. Et je tiens à souligner que le livre est passionnant, de David Lépée, un livre de 80 pages qui s'appelle « Guillaume Tell, de l'histoire à la légende ». Alors, le film se déroule à la fin du XIIIe siècle. Le bailli Gessler, aux ordres des Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique, impose sa tyrannie aux habitants des cantons d'Auschwitz et Uri. Les paysans doivent payer de plus en plus d'impôts et subir les humiliations des gardes. Heureusement, Guillaume Tell va prendre la tête de la révolte et libérer le peuple du joug des oppresseurs. Voilà, et donc ça donne un chouette film. C'est une super production suisse, et oui, ça se peut, c'est possible. C'est un côté très naïf. Voilà. Y a aussi un petit côté paillard, il y a un petit côté KPP, les films qu'on aimait bien, comme les films d'une belle, tout ça. Enfin bon, moi vraiment, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Et puis c'est un film qui a du souffle, c'est ça qui est intéressant. Y a par moments des moments assez violents, il y a même une tentative de viol dans un film familial, c'est quand même des choses qu'on voit rarement. Y a un homme qui se fait passer les yeux au fer rouge, par exemple, qui est une scène aussi assez violente. L'autre intérêt du film, l'autre aspect singulier en tout cas du film, c'est que Guillaume Tell, en fin de compte, il vient en gros qu'au bout d'une demi-heure de film. Et le film raconte aussi autre chose. Le film aussi s'attarde sur certaines plastiques, sur une certaine... Par moment, on est presque dans Heidi, dans les grandes montagnes suisses, voilà, tout ça, c'est assez beau. Non, c'est vraiment un chouette film. Si vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est une adaptation de Guillaume Tell parmi les meilleurs. Encore de l'aventure maintenant, mais d'aventure et du western, on va aller chez Éléphant de Film, avec côté héros sans peur et sans reproche venu d'Orient, Bagdad et les frères Barberousse, deux films de Charles Lamont, l'un de 49, l'un de 51, le deuxième. Alors, il y a ces deux films-là, il y a Le fils d'Ali Baba de Kurt Neumann, qui est le réalisateur de La Mouche Noire, qui est de 52, Les exploits d'Ali Baba de 65 de Virgil W. Vogel. Alors, on va commencer par Bagdad, donc de Charles Lamont, en 49, où une princesse bédouine, Marjane, rentre à Bagdad après des études en Angleterre, mais son retour est tragique. Son père a été tué, elle se retrouve courtisée de toutes parts. Bon, en même temps, c'est Maureen O'Hara, hein. C'est l'une des plus belles actrices de tous les temps et une rousse superbement belle. Bon, alors du coup, une bédouine rousse, c'est un peu étrange, mais bon, ça gêne pas trop les Américains, visiblement. Le danger est partout et la jeune femme cherche vengeance, décidée à s'en prendre au méchant prince Ahmed Kabar. Et pourtant, nous sommes désemparés car elle semble succomber au charme de celui qui est certainement l'assassin de son père. Voilà le postulat de départ d'un petit film d'aventure un peu agrémenté, heureusement, par la présence de Maureen O'Hara. Bon, elle nous fait quelques danses lascives, la belle irlandaise, qu'on ne regrette pas. Après, il y a quelques morceaux musicaux. Bon, ça, c'est moins la classe, surtout que c'est en playback, c'est un peu maladroit. Il y a Vincent Price au casting, ça, c'est jamais désagréable. Mais bon, le film est quand même assez poussif. C'est beaucoup moins bien que l'autre film de Charles Lamont qui est proposé dans cette salve de films d'aventure. Alors, c'est tout aussi fauché, hein, c'est les frères Barberousse. Et c'est tout aussi fauché que l'autre film, parce qu'il n'y a quasiment pas de figurants, c'est des décors peints, enfin, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus rythmé. Il y a un joli Technicolor, c'est une production universale bien rythmée, bien sympathique. Ça se passe dans les environs de Tunis. Il y a bien sûr un méchant bédouin, Tamerlan, qui est à la poursuite de Shahzada, un magnifique étalon noir qu'il convoite plus que tous les trésors du monde. Dans le désert, il vient par hasard en aide à la princesse Tania, égarée, qui lui promet une récompense. À son retour au palais, Tania retrouve son père mourant. C'est son vil cousin qui accède au trône et contre son vœu solennel, celui-ci décide de donner en mariage à l'un des frères Barberousse, deux sanguinaires corsaires qui tiennent la ville sous leur coupe. Pour échapper à ce sordide destin, la princesse promet de s'offrir à celui qui remportera la grande course de chevaux du royaume. À l'insu de son cousin, elle part à la recherche de Tamerlan lui-même sur les traces de Shahzada. Et entre le fier bédouin et la fière princesse, la rivalité se mue peu à peu en passion. Alors évidemment, il y a toujours Maureen O'Hara, toujours très belle. Ils ont gardé le même casting, hein, quasiment, c'est plus simple. Jeff Chandler, qui en fait des tonnes, mais c'est très bien. Et voilà, c'est hyper rythmé, il y a des péripéties tout le temps. C'est beaucoup mieux troussé que le précédent, étonnamment. C'est assez sympathique, tout aussi sympathique est le fils d'Ali Baba. Hein. Bon, bah voilà, hein, c'est pas besoin de vous expliquer plus longtemps qui c'est. Donc, le fils d'Ali Baba mène une existence tranquille, peinard, et puis un jour... Kiki, qui est une jolie jeune femme, vient frapper à sa porte pour solliciter son aide. Elle s'est échappée du harem où un ignoble calife la retenait prisonnière avec sa maîtresse, la princesse Azura. Elle est bien sûr poursuivie par les hommes de main de ce vil personnage. Et, Kashma Baba va donc la conduire dans le palais de son père. Là aussi, c'est un peu fauché, mais le Technicolor est très beau. C'est la surprise, c'est de retrouver Piper Laurie, qui est toute jeune et au sommet de sa beauté. Piper Laurie, c'est la maman de Carrie dans le film de Brian De Palma. Là, elle est beaucoup plus jeune, évidemment. Il y a aussi la très séduisante Suzanne Cabot. Et puis, le clou du spectacle, c'est de retrouver Tony Curtis. Tony Curtis dans un de ses premiers rôles. Donc, c'est assez marrant de le voir dans ce film d'aventure un peu oriental. Et puis, Kurt Neumann, toujours autant de talent, ce réalisateur, ce petit roi de la série B, qui se permet même de transiger un peu avec les règles de la bienséance, puisqu'on retrouve, par exemple, deux petites nymphomanes à un moment. C'est un peu étrange. C'est des choses qu'on ne voyait pas dans les films de cette époque. Je termine cette petite salve d'aventure par Les exploits d'Ali Baba de Virgil W. Vogel, d'un film de 65. Pour moi, c'est le moins intéressant de tous les films présentés. Réutilise des stock shots de l'excellente version de 44. Pour moi, ça reste une petite illustration d'Ali Baba. Côté cow-boy, maintenant, on va terminer notre émission d'aujourd'hui avec une petite série de films de cow-boy. Ils sont tous présentés par Jean-Pierre Dionnet. Des westerns dans lesquels on va retrouver en premier Le Retour des Texas Rangers. Ah, tout ça, c'est chez Elephant Film, un film de 1940 de James Patrick Hogan. Petite série B avec un casting de fou furieux, puisqu'on y retrouve Broderick Crawford, Anthony Quinn, Robert Ryan. Excusez-moi du peu. Et évidemment, ça se passe quoi ? Qu'est-ce que ça raconte ? On est en 1930. Donc du coup il y a des voitures tout ça et tout, enfin bon voilà, il y a un énorme ranch, c'est le White Sage Ranch, tout est tranquille jusqu'à évidemment des méchants, des malfaiteurs dans le pâturage, et donc pour s'en débarrasser on va devoir faire appel aux Texas Rangers. Voilà, un film qui dure à peine plus d'une heure, et c'est tant mieux parce que faut dire que c'est pas extraordinaire. C'est bon. Ça a le mérite d'être bien rythmé, hein. Mais franchement, c'est un peu les gentils Texas Rangers contre le reste du monde. Ça manque de nuances. On a vu mieux, voilà. Telle par exemple cette Belle Rousse du Wyoming de Lee Scholem, encore avec Maureen O'Hara, qui décidément est dans tous les films édités par Elephant Film. Là, le script est un peu plus complexe. Il y a de la politique, il y a deux propriétaires de ranch qui s'affrontent. Et puis il y a la belle Maureen O'Hara en femme forte. Alors ce qui est intéressant, c'est que le film en fait s'intéresse à la même période que celle qui a inspiré La Porte du Paradis à Michael Cimino en 1980, ce qu'on a appelé la Johnson County War. Alors évidemment, on est loin du niveau du chef-d'œuvre de Michael Cimino. Et puis Bon, Lee Cholem, c'est pas un très grand réalisateur, hein, mais ça reste des séries B, très efficaces, avec un rythme très soutenu et particulièrement bien interprété. Et quand même, il faut dire que Maureen O'Hara, elle a dû claquer tout le budget dans les fringues parce qu'elle change de fringues toutes les 5 minutes. À chaque plan, elle a des nouvelles fringues. Ça pète de partout. C'est assez rigolo. Et puis, elle a bien mérité son titre de Belle Rousse du Wyoming. Une bien bonne série B, comme on aimerait en voir plus souvent. Alors, dans cette salle, il y a deux films de George Sherman. Le Mustang Noir. Alors, ça, c'est un film de 49. Comment dire, une jeune femme, Lucie, vit avec son père qui est veuf. Elle est ravissante, mais bon, voilà. Elle ne rêve que d'une seule chose, pouvoir capturer un célèbre Mustang noir et le prendre pour monture, chacun ses rêves. Mais ce n'est pas la seule personne que le cheval sauvage intéresse. Un certain Lynn Sloan réussit à le capturer au lasso. Et bien sûr, à partir de là, les deux jeunes gens vont se rapprocher et vont se mettre à lutter contre les voleurs de chevaux qui sévissent dans les parages. Alors, rien qu'au scénario, je suis sûr que ça ne vous donne pas très envie. Bon, c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. George Sherman a fait mieux. C'est un réalisateur en même temps qui tournait des dizaines de films. Il lui arrivait sur une année de tourner 10-12 films. C'était incroyable. Donc, tout ne peut pas être bon. Voilà. Il a un sens du cadre qui est assez chouette. Il s'est très bien cadré. Généralement, il y a un sens de la photo aussi qui est assez chouette. Mais quand le scénario n'est pas terrible, eh ben le film n'est pas terrible, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, Sherman, compenser tout. Quand on tourne autant de films, il est évident qu'on ne passe pas son temps à réécrire les scénarios, à imprimer sa propre vision. Et donc, du coup, c'est moins réussi que sur Le Territoire des Comanches, l'autre film de Sherman proposé dans cette salve, avec, devinez qui, Maureen O'Hara, la Belle Rousse. Eh oui, décidément, à l'époque, elle tournait dans tous les films Universal, ce qui est vrai, puisque c'était des contrats. C'est l'histoire de Jim Bowie, qui est envoyé par le président des États-Unis en territoire Comanche, afin de s'assurer que le traité de paix passé avec les Indiens est bien respecté. Mais comme il y a des gisements d'argent dans les parages, on se doute bien que les colons qui sont dans le coin vont avoir envie de mettre la main dessus, et en particulier Katie Howard, donc patronne d'un saloon, jouée par Maureen O'Hara, qui attaquerait bien les Comanches avec des hommes de main pour récupérer le fameux minerai. Et effectivement, si je vous dis Jim Bowie, ça va vous rappeler quelque chose. Jim Bowie, là, il sera ensuite, c'est un personnage mythique, interprété par Alan Ladd dans La maîtresse de fer de Gordon Douglas, et il sera ensuite interprété par Richard Widmark dans Alamo de John Wayne. C'est bien le même personnage. Le film là présent, en plus, est un film qui est pro-indien. Il est tourné la même année que La Flèche brisée de Delmer Daves et La Porte du Diable d'Anthony Mann. Ça fait partie des premiers westerns donc pro-indiens. Donc, rien que pour ça, il mérite d'être vu. Et puis, il y a Maureen O'Hara. Maureen O'Hara, c'est toujours... Voilà, c'est toujours l'occasion de regarder un film. Il reste deux films à chroniquer, donc je vais très vite, juste pour vous dire qu'il y a Vengeance mexicaine, Barbarossa, un film de 82 de Fred Chepici, qui est un film un peu étrange, vraiment étrange, avec Gary Busey et Willie Nelson, le chanteur de country, dans lequel c'est une histoire d'initiation, au 19e siècle. Un ancien qui prend en charge un jeune homme dans le cadre d'une histoire de vengeance. Un film très étrange, parce que très elliptique, par moments très décousu, on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Pourtant, c'est un film qui vous captive, qui vous envoûte, vous ne savez pas pourquoi. Donc c'est un film très intéressant, malgré tout son côté bancal. Et puis je vais aller très vite, et je termine là-dessus, sur « Il était une fois deux salopards », de Samuel Fuller et Charles Dubin. Arrêtez d'imaginer que c'est extraordinaire. En fait, c'est un film de 67 qui est un montage de deux épisodes de la série TV Le Virginien avec en guest Lee Marvin dans l'un et Charles Bronson dans l'autre. Des épisodes tournés, le premier est tourné en 63 par Samuel Fuller avec Lee Marvin, le second 4 ans plus tard avec Charles Bronson. Donc, les producteurs malins nous pondent un prologue pour essayer de lier tout ça, pour qu'il y ait une vengeance entre les deux stars. Tout est permis, puisque, par exemple, on découpe des plans de Bronson qu'on colle sur la pellicule pour le mettre dans le décor de 1967. C'est assez moche, c'est assez ridicule. Disons que c'est un objet filmique non identifié, c'est un travail de producteur et c'est une curiosité. Mais ne vous attendez pas à découvrir un inédit de Samuel Fuller qui serait extraordinaire.
on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Just can't wait to get on.